chapitre 1, verset 27. Alors, je vous ai parlé de lire trois chapitres complets. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu lui dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meurt sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Nous lisons en Genèse, chapitre 2, versets 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Nous lisons en Genèse, chapitre 3, versets 9 à 19. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête. » Et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Et notre dernier texte, ne vous découragez pas, en Genèse chapitre 4, versets 1 à 4, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pour cette prédication, je me suis fortement inspiré d'un livre qui s'appelle « Les Alliances de Dieu » de Jean Cadier. Vous pouvez le retrouver sur Internet si vous désirez. Vous tapez tout simplement « Les Alliances de Dieu » de Jean Cadier et vous tomberez sur son livre que vous pouvez lire en ligne. Et j'ai même repris des phrases que j'ai remises telles quelles de ce livre. Car après tout, pourquoi réinventer la roue quand elle existe déjà ? Bon, cela demande un peu d'humilité, d'accepter qu'on ne réinvente pas tout et que d'autres l'ont déjà fait. La Bible ne nous donne pas beaucoup de précisions sur la vie de l'homme avant la chute. Cela se résume à trois chapitres. Et dans ces trois chapitres de la Genèse, on ne parle pas que de l'homme, mais aussi de la création de l'univers. Les deux premiers chapitres de la Genèse nous parlent de Dieu qui crée l'homme pour avoir une relation personnelle avec lui. Et le troisième chapitre nous parle de la chute, et pas seulement. Nous, réformés, nous croyons que l'homme est une créature de Dieu et que sa destinée était d'obéir à la volonté de Dieu et d'être en relation aimante et filiale avec son Créateur. Aimante, car c'est rempli d'amour que Dieu a créé l'homme. Filiale, car il l'a fait à son image, dans l'objectif d'avoir une relation personnelle avec lui, comme un père a une relation avec un fils ou une fille. Par nature, l'homme et la femme sont un être de relation. Alors ensuite, je vais dire « il hein, », parce que l'homme, en français, c'est à la fois l'homme et la femme. Donc, quand je dis « homme », c'est les deux. Hein. Ne vous sentez pas excluse. Donc,
exclu, UE,
voilà. Merci pour cette leçon de grammaire. Je répète. Par nature, l'homme est un être de relation. Il n'a de valeur que dans son rapport avec un être plus grand que lui. Il n'existe et ne vit que par celui qui est la source de vie. Sans Dieu, il n'y aurait pas eu de terre et non pas d'homme. Calvin nous dit que par la création de l'homme, Dieu constitue le moyen de sa présence dans le cosmos. L'homme est le miroir de la gloire de Dieu. La création tout entière est une preuve de l'existence de Dieu. En effet, le hasard n'aurait pas pu créer une création aussi jolie. Et un homme m'a donné cet exemple, il me disait « Mais j'ai fait tomber plusieurs fois un encrier d'encre et jamais ça n'a fait de dessin. » Il en est de même pour la belle création qu'on a autour de nous. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui l'a créé et qui l'a fait aussi magnifique, la fait aussi magnifique. Dieu a créé l'homme dans un objectif précis, qui était celle d'une communion avec lui, mais pas n'importe laquelle. Une communion, d'un côté, nous avons Dieu, qui a un amour paternel pour l'homme. Dieu est supérieur à l'homme en tout et peut se passer de l'homme facilement. Il n'avait pas besoin de l'homme pour vivre, mais il choisit quand même de le créer, pour avoir une relation avec lui. Il choisit de vivre une relation avec lui de son plein gré. Et de l'autre côté, nous avons l'homme, qui est une créature fragile et qui a besoin de cette relation avec Dieu pour vivre éternellement et doit se conformer à la volonté de Dieu pour vivre cette communion. Celui qui rend possible cette relation, c'est qui ? C'est Dieu. Mais Dieu ne peut pas obliger l'homme à vivre cette communion qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. Dans une communion forcée, vous le savez, il n'y a pas d'amour. Or, Dieu est amour et ne peut concevoir une relation sans amour. Ce n'est pas possible. Du coup, pour que l'homme puisse manifester sa volonté de vivre une relation d'amour avec Dieu, celui-ci lui donne un ordre, et c'est en Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Par cet ordre, l'homme peut montrer à Dieu s'il a envie de vivre cette communion ou pas. En choisissant de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme accepte de dépendre de Dieu. Par contre, en mangeant du fruit, il dit à Dieu sa volonté de ne pas dépendre de lui et d'être autonome. Veut-il l'hétéronomie ou l'autonomie ? J'ai appris un nouveau mot, c'est l'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est le contraire de l'autonomie, c'est l'absence d'autonomie. Et dans notre texte, c'est du coup l'absence totale de la dépendance avec Dieu. C'est une volonté de vivre seul et pas dépendant de Dieu. Par cet ordre, Dieu veut conclure une alliance avec l'homme. Cette alliance, c'est que l'homme fasse pleinement confiance à Dieu pour son bonheur, même s'il ne comprend pas tout ce qui se passe. Par cette alliance, Dieu manifeste à l'homme sa volonté de lui accorder la vie s'il accepte sa souveraineté. C'est un pacte d'un père avec ses enfants. Cette alliance apportera la vie et le bonheur à l'homme. Et Adam accepte cette alliance et il a eu la possibilité de vivre dans ce jardin. Oui, Adam a accepté, mais pas pour toujours. Comme Dieu demande à l'homme l'obéissance, cette alliance est souvent appelée l'alliance des œuvres, car elle dépend de l'obéissance d'Adam et Ève. Cette alliance apportait la vie à Adam et Ève, non pas en leur donnant un corps immortel, mais en leur donnant la possibilité de ne pas mourir. Saint Augustin a bien clairement vu cela lorsqu'il parle de l'immortalité. Il dit selon une double cause que l'on peut envisager. On peut dire que l'homme avant le péché était mortel et immortel. Mortel parce qu'il pouvait mourir, immortel parce qu'il pouvait ne pas mourir. L'immortalité de Adam ne lui venait pas de sa constitution ou de sa nature, mais de l'arbre de la vie. Et c'est très important. Car si l'homme, après la chute, devient mortel, ce n'est pas parce que Dieu l'a maudit et lui a voulu du mal, à quel point il a voulu qu'il meure. Non. C'est une conséquence de la désobéissance. Dieu est amour et il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Mais si nous transgressons ses commandements, nous nous éloignons de ce qui est bon pour nous. C'était la présence de Dieu qui donnait la vie. Comme disait saint Augustin, ils étaient mortels, ils pouvaient mourir à tout moment. Mais parce qu'ils étaient dans cette présence de Dieu, ils étaient immortels. Et quand ils sont sortis de cette présence de Dieu, ils sont restés mortels. Plus accès à l'immortalité. Et donc ce n'est pas un acte de méchanceté que Dieu fait à l'homme. C'est juste une conséquence de leur péché. Il est important de comprendre que quand Adam et Ève vont désobéir à Dieu, il ne va pas les tuer de suite. Il ne va pas les tuer tout court, parce que la mort sera une conséquence de leur péché. En désobéissant, ils se privent de la vie qui était en Dieu. Ils étaient prévenus que s'ils mangeaient du fruit interdit, ils mourraient. Ils étaient prévenus, ils savaient tout. Ils ne savaient pas tout, mais en tout cas, cela, ils le savaient. Mais ils n'ont pas voulu écouter ce que disait Dieu, et c'est librement qu'ils ont choisi de ne plus vivre cette relation avec Dieu et de mourir un jour. C'est librement. Alors, quelquefois, cette liberté, on prend la mauvaise décision, on aime bien dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Alors, Adam a profité d'Ève, Ève a profité du serpent. Mais c'est eux, en fin de compte, qui ont choisi librement de s'éloigner de Dieu. Ni le serpent, ni la femme. Ils avaient le choix entre la connaissance du bien et du mal, ou l'amour de Dieu. Ils ont choisi la connaissance du bien et du mal. Et malgré la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu est trois fois bon. Dieu est bon envers Adam et Ève, car même s'ils ont désobéi, il prend soin d'eux et les console. Dieu leur donne des habits et les prévient que tout va devenir difficile, la grossesse et le travail. Dieu ne veut pas leur malheur et il les prévient. Une fois de plus, tout ce malheur qui arrive, c'est l'éloignement de Dieu. Dieu est plus que bon envers eux, car il ne va pas rompre complètement la relation avec eux. Il va continuer de parler à eux et à leurs enfants. D'où le texte de Genèse 4, où on voit que Abel et Caïn font des sacrifices à Dieu. Ça veut dire que la relation était quand même là. Et quand Ève conçoit des enfants, elle dit, mais c'est grâce à l'Éternel. Preuve aussi que Dieu n'avait pas rompu complètement la relation avec les hommes. Dieu va continuer de leur parler à eux, à leurs enfants et à leur descendance. Il aurait pu couper tous les ponts avec eux, mais Dieu choisit de rester en contact avec eux. Dieu est trois fois bon. Car après l'échec de la première alliance, il choisit de refaire une deuxième alliance avec eux. Cette fois-ci, elle ne sera pas basée sur leur obéissance, mais sur le Christ qui viendra. Finalement, la chute d'Adam et Ève devient l'occasion d'une nouvelle et plus haute manifestation de l'amour de Dieu. Il conclut une nouvelle alliance qui est l'alliance de grâce. Dieu ne rejette pas l'homme tombé, il lui tend la main dans une révélation nouvelle de son amour. De la chute date la promesse d'un rédempteur, ce qui faisait dire à saint Augustin, heureuse faute qui nous a mérité un tel rédempteur. Dieu annonce que la postérité de la femme écrasera un jour la tête du serpent. On va même dire qu'il est quatre fois bon envers eux. Au lieu de leur dire, ben voilà, vous avez fait un échec et puis vous penserez toujours à cet échec et vous serez nuls et vous serez foutus, non. Il donne une espérance et dit, un jour, vous serez sauvés. Le Christ viendra. Il donne une espérance à l'homme. Il aurait pu le laisser dans ce chaos. Mais non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Or, l'alliance de grâce ne supprime pas l'alliance des œuvres. Elle supplée à la carence de l'homme tombée par celui qui a été vraiment l'homme et qui a fait la volonté du Père sa nourriture. Ainsi, si tu as l'impression d'avoir fait quelque chose qui a déplu à Dieu et que ton cœur est triste, relève la tête. Car ton Dieu est là devant toi et il te dit « Je t'aime ». Il ne te condamne pas, mais il te donne la possibilité de te réconcilier avec lui. Cette possibilité, c'est le pardon. Ce pardon consiste à reconnaître que nos vies ne sont pas mieux que celles d'Adam et Ève, et que nous avons besoin de Jésus pour continuer à vivre une relation avec Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Certains voudraient faire de l'Ancien Testament, une histoire où Dieu est méchant envers son peuple, mais il n'en est rien. Dieu est bon, Dieu est plus que bon. Il a toujours été bon et il restera bon. Mais l'homme, quelquefois, désobéit à Dieu. Et en désobéissant à Dieu, il s'éloigne de la bonté de Dieu. Oui, l'Ancien Testament contient beaucoup de choses dures. Mais pourquoi ? Lorsque Dieu refit une alliance avec David en lui disant « Mais voilà, tu me mettras au centre et Salomon bâtit ce temple. » Les autres rois abandonnèrent Dieu. Et c'est pour cela que tant de choses mauvaises sont venues. Mais combien de fois Dieu a renvoyé des prophètes, etc. Dès le commencement, Dieu est plus que bon. Ne laissons personne dire le contraire. Dieu est bon envers toi et il le restera. Si nous devons dire quelque chose aux gens qui viendront cet après-midi, c'est que peu importe ce que tu as fait dans ta vie, Dieu t'aime et Dieu veut le meilleur pour toi. Pas la peine de leur donner tout un enseignement de Genèse jusqu'à Apocalypse, mais juste leur dire que Dieu les aime et que Dieu est prêt à tout leur pardonner si eux, ils veulent rétablir cette relation avec eux. Je vous laisse une petite minute de silence pour méditer et après, on va chanter un chant. Le champ qui se situe là, si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée.
Il va le faire pour cela. Il va le faire.
Personne ou plusieurs, peu importe. C'est le moment de la bénédiction.